ahí va Alberto, Contador. Ahí va Alberto. Cambio de ritmo de Alberto Contador. Ahí la parte Andy final. Schleck. Como una moto,
Nibali, 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 andato. Nibali,
prova Nibali.
Grandissimo Vincenzo. Metri,
dietro si voltano, dietro si voltano.
Lascele Watts. Oh là là, mais c'est pas... Mais Lance sort de ce corps.
Bonjour à tous, c'est Luca et bienvenue pour un nouvel épisode du débrief by Dossard 13. Aujourd'hui, on va aborder plusieurs sujets, comme d'habitude, comme à notre habitude. On va évoquer aussi les tensions qu'il y a eu en interne du côté de la Groupama. Mais avant ça, en introduction, on enregistre cet épisode le lendemain de la, du tragique accident qu'il y a eu sur le Tour de Suisse où malheureusement Gino Mader nous a quittés après une sortie de route effectuée à près de 95 km/h selon le compteur de Magnus Sheffield. Il va manquer à ses proches, au cyclisme et un peu à tous les passionnés parce que c'est avant tout aussi un homme qui œuvrait pour de belles causes comme la lutte contre le cancer chez les enfants ou encore la reforestation de l'Afrique lors de sa dernière Vuelta. Et c'était un homme avec un grand cœur et surtout un grand talent. Et malheureusement, le cyclisme est un sport dur, horrible et malheureusement des fois néfaste. Pour parler de tout ça, je suis toujours avec Guillaume. Comment vas-tu aujourd'hui ?
Comme tout le monde, franchement, ça fait mal au cœur. Triste nouvelle qui nous rappelle ô combien le vélo peut être un sport dangereux. Certes magnifique, mais très dangereux. Faites toujours attention à vous et aux autres. Rien ne vaut la vie et ne prenez pas des risques inconsidérés. Et quand je dis attention à vous, c'est parce que parmi nous, cyclistes, on est beaucoup aussi être automobilistes et chaque jour, on voit des dingueries et bref, faites attention également aux autres et prenez soin de vous.
Après cette parenthèse, on va dire forcément très triste, on va essayer quand même d'aborder un peu plus gaiement les différents sujets qui ont marqué l'actualité cycliste ces derniers jours. Parce qu'il y a eu quand même pas mal de choses. Et pour parler du premier sujet qui a fait pas mal parler, ça a été celui de la Groupama et de la guéguerre en interne. C'est un peu la nouvelle télé-réalité préférée de ta télé-réalité préférée. On a vu sur le Critérium du Dauphiné un David Gaudu en grande méforme.
Ouais, franchement, moi ce qui m'a fumé, c'est que j'étais devant Eurosport et je voyais une interview de Gaudu en masque qui dit quand même, nous on sait ce qui va pas, mais on va le garder pour nous. Donc déjà, David, j'ai envie de dire, qu'est-ce que tu caches sous ce masque? Et il garde quand même beaucoup de choses pour lui, Gaudu, ces derniers temps. Hein. Entre ce qu'il pense pour Pinot au Tour de France et ce qu'il sait, enfin les raisons de sa méforme, il y a un moment, j'ai envie de te dire, parle, dis ce que tu penses, sois franc. C'est pas en disant les choses sur un Discord que tu vas passer pour un homme. Bon, là, je suis un peu dur, mais... Mais ouais, la FDJ en ce moment, c'est quelque chose. Du bon et du moins bon.
Donc, comme on l'a dit, le fameux stage a été quand même assez compliqué pour la majorité des coureurs qui l'ont fait sur le Dauphiné. On a vu Matt Wess en grande difficulté. On a vu Kevin Guenietz lui aussi en difficulté dans les moments clés. De l'autre côté, en Suisse, Storer n'avance pas. D'un autre côté... Pinot, qui n'a pas couru depuis le Giro, assez logique, fera finalement le Tour de France. En fait, tous les éléments-là qu'on a évoqués, normalement, auraient dû permettre à Arnaud Démare de faire le Tour. Parce que on l'a vu vainqueur sur la Bruxelles Classique. On l'a vu quand même assez fringant sur la première étape du Tour de Suisse. Et puis même, globalement, il avait axé toute sa saison pour être en forme au moment clé, c'est-à-dire le Tour de France. Donc là, Arnaud Démare, il montait en puissance. On va pas revenir aussi sur les points qu'il a eu à l'époque vis-à-vis de Démare par rapport à, par exemple, à Nasser Bouhanni, mais lorsqu'il était encore chez FDJ à l'époque. Mais globalement, là, vu les états de forme de chacun... Vu la montée en puissance de chacun, franchement, et même quand tu regardes l'équipe qui a été pour l'instant sélectionnée sur le Tour de France, tu te dis, allez, on s'en fout, tu mets pas de train pour démarrer, mais au moins tu le mets. Parce que franchement, ça ne coûte rien de jouer au moins une étape, surtout que on va dire qu'il y a toujours la possibilité de le faire. Si tu amènes Pinot pour courir pour les étapes, même s'il va aider Godu pour le général, franchement, tu peux mettre quand même démarrer. Parce que même là, en fait, quand je suis en train de regarder le potentiel 8 pour le tour chez Groupama, franchement, il y a la place pour Arnaud. Hein.
Bah, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est triste parce que la gestion du cas Démar, pour le coup, elle est quand même catastrophique. Alors, peut-être qu'ils veulent pas le prolonger, d'accord. Mais là, pour le coup, il a axé, comme tu l'as dit, sa saison sur le Tour de France. Et il le fout en rade. Il l'annonce en même temps qu'il fera pas le tour et qu'il sera pas prolongé. Franchement, sportivement, c'est triste parce que, comme dit, Démar, pour moi, c'était la plus grande chance de victoire d'étape pour la FDJ. Franchement, moi, je suis trop content pour Thibaut. L'histoire est en marche, mais on ne sait pas quelle forme il aura vis-à-vis des autres coureurs vu qu'il sort du Giro. Donc, ouais. Pour moi, je suis de ton avis que Démar aurait pu être dans le 8, même sans train.
Parce que c'est surtout aussi que Godu avait fait un Paris-Nice qui nous avait fait enflammer totalement. Le reste, ça a été très compliqué. Pays Basque, certes, il était là, mais il brillait pas non plus de mille feux. Les Ardennaises, il les a toutes abandonnées. Et le Dauphiné, bah, compliqué, quoi. Donc, quand tu vois ce qu'il a fait pour l'instant en ce début de saison, pour un objectif podium, vu la concurrence, moi, franchement, ça me fait peur. Hein. Et justement, quand tu sais que c'est compliqué, tu axes majoritairement ton équipe pour les étapes, et dans ce cas-là, tu mets un Arnaud Démar en même en vrai, parce que Démar en vrai, ces dernières années, comme on l'a vu par exemple sur le Giro, il a besoin d'un train. En vrai, il a besoin d'un train pour performer. Mais un coureur, ça sait s'adapter. Et Démar, il a quand même l'expérience pour s'adapter et pour pouvoir décrocher un bouquet sur le tour, tout simplement. Et même s'il a pas vraiment de poisson pilote, même avec un Kung, ça fait le taf. Mais je suis curieux de voir ce qui va se passer pour la Groupama FDJ cet été sur le Tour. Et plus encore sur la Volta. Parce que sur la Volta, on aura le droit au duo Romain Grégoire et Lenny Martinez. Mais sur le Tour, ça va être quand même intéressant à suivre.
Et du coup, on parlait de Démar, on va enchaîner quand même. Parce que pour lui, ça pourrait être un mal pour un bien de tenter de nouvelles choses et un second chapitre dans une autre équipe. Perso, moi, avant de citer les équipes, personnellement, j'aimerais beaucoup le voir partir dans une équipe à l'étranger, un peu comme l'a fait un Romain Bardet, parce qu'on passe, il passe la trentaine, et pourtant, quelqu'un comme Romain Bardet, t'as l'impression que bah il est au top de sa forme de sa carrière. Et pour moi, Démar, enfin, ça pourrait lui apporter quelque chose d'autre. J'aimerais bien le voir aller ailleurs qu'une équipe française. Dans les équipes citées, bon, forcément, on vient des équipes francophone, Arkia, on pense à Intermarché également, ou Total. Et après, Luca vous a concocté une piste. Je te laisse la citer, Luca, vas-y.
Et si Arnaud Démar allait chez Eolo? Je vous explique. Eolo veut mettre les bouchées doubles en termes de budget pour passer World Tour en 2025. C'est une équipe italienne. Où est-ce que Arnaud Démar marche le plus? En Italie. Milan-San Remo, Tour d'Italie, plusieurs étapes, le maillot cyclamen à plusieurs reprises, deux fois en 2022 et 2020. Il adore l'Italie. Ça peut être une équipe étrangère, on l'a dit. Eolo cherche un sprinter. Il adore l'Italie. Ça peut matcher. Enfin, franchement, il y a quelque chose à faire. Moi, je suis Eolo. J'en discute avec Arnaud et on verra ce que ça donne. Mais c'est sûr que. Que du côté de Démar, il y a la possibilité de se trouver une seconde jeunesse en France et à l'étranger. Et puis voilà.
Bah écoute, moi je dis pas non. Et je me suis engagé tout à l'heure. Si ça arrive, j'offrirai le maillot Eolo à Luca. Comme ça, Luca reprendra le vélo. Et voilà. Bon, après, dans une note un peu plus inquiétante, on a entendu parler de rumeurs qui pourraient annoncer un départ de Valentin Madouas pour 2024. Le grand changement de la FDJ, c'était cet hiver, mais visiblement, ça pourrait encore continuer.
Avec la perte d'un Valentin Madouas, qui est quand même pour moi l'un des, si ce n'est le meilleur coureur de la Groupama, avec ses différentes performances sur les classiques flandriennes et autres, ça ferait un grand mal de voir partir quand même Valentin Madouas, qui est l'un des hommes forts. Il a seulement 26 ans. Mais c'est sûr que lui, peut-être en termes de carrière, après 2024, parce que là, il est en contrat jusqu'à 2024, il a toujours la possibilité de casser le contrat. Mais c'est vrai que, par exemple, l'imaginer chez une équipe comme Jumbo-Visma, il peut gagner un grand tour. Hein.
C'est sexy.
Franchement, ça peut être quelque chose d'hallucinant de le voir dans une autre équipe étrangère. Après, on sait que maintenant, la Groupama travaille énormément sur beaucoup de choses. Et il y a quand même des jeunes, comme on l'a évoqué avant, comme Romain Grégoire et Lenny Martinez, qui poussent à la porte, qui défoncent la porte, même, j'ai envie de te dire, parce qu'ils font de très très belles choses dès leur première saison chez les grands. Et non, tout simplement, hâte de voir ce qui va se passer dans l'après-Groupama, avec par exemple, après 2024, potentiellement avec le départ de Demar, Madouas et du coup Pino. Ça peut être un nouveau cycle. On parlait juste avant de Lenny Martinez et Romain Grégoire. J'aimerais m'attarder quand même deux petites secondes sur le réservoir de talent en France. Parce qu'on parle beaucoup des fois des coureurs étrangers, des jeunes pépites étrangères. Mais en France, là, ça pousse énormément. Toutes les semaines, on a des nouvelles promesses et confirmations, même j'ai envie de dire. On a encore eu la semaine dernière la victoire de Lenny Martinez, sa première victoire chez les pros sur la classique Mont Ventoux. Sans oublier par exemple un Romain Grégoire qui a remporté les 4 jours de Dunkerque et du coup qui va se positionner comme l'un des favoris aussi sur les prochains championnats de France. On a un Kevin Vauclin qui certes a été un peu malchanceux et qui est toujours blessé suite au tour, son récent tour de Romandie, mais il ne devrait pas tarder à reprendre la compétition, mais qui est l'un des grands hommes à suivre du côté des talents en France pour les courses par étapes. Récemment, sur le Grand Prix de la Paix en République tchèque chez les Espoirs, on a eu une double victoire de Pierre Gautrat sur le prologue et la première étape, mais aussi la victoire au général de Ubi, l'ancien crossman qui, Dieu merci, a quitté le Cross Team Legendre pour s'essayer totalement à la route et pour le plus grand bien, le plus grand bonheur du cyclisme français. Il a fait ça et ce sera l'un des futurs très grands coureurs, même mondiaux. C'est sûr parce qu'il a une explosivité, il grimpe ultra bien. Franchement, c'est un coureur ultra talentueux. J'ai hâte de voir, enfin j'espère même qu'il va passer chez les pros dès l'année prochaine avec Total. D'ailleurs, rappelons, il gagne le général alors que de base il n'était pas prévu pour la course, il a été réserviste tout simplement. Là sur le Baby Giro, on a Alexis Fort-Prost qui sort des juniors, qui était du côté de Tournu et qui fait 2 au sommet du Stelvio derrière Stone Mittets, exceptionnel encore une fois. Première saison, on va dire, chez les Espoirs, ultra fort, ultra complet. Hâte de voir ce qu'il va faire du coup parce qu'actuellement il est dans la réserve d'Intermarché. Là, je pense que ça peut l'ouvrir les portes pour dès l'année prochaine pour les World Tour.
Tournu, c'est les émotions. C'est les émotions, c'est les routes de mon enfance.
Et du côté des juniors, on a le duo pour moi qui est fascinant de Léo Bisio, le champion du monde de cyclocross qui malheureusement s'est fait la clavicule du côté de la classique des Alpes. Mais surtout, on a Paul Sexas, première année chez les juniors qui est ultra régulier. Monsieur Trois Poumons, on l'appelle, du côté de Villefranche. Et qui est très 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 fort. Pour moi, c'est, si ce n'est encore un plus gros talent, ça se trouve, qu'un Lenny Martinez ou un Romain Grégoire. Pour moi, je vois de grandes choses pour lui dans les années à venir. Et hâte de voir ce qu'il va faire. Parce que là, pour l'instant, il est dans la réserve junior d'AG2R. On sait que Chambéry, du côté de l'ADN, s'est séparé d'AG2R, donc AG2R va vouloir monter sa propre réserve en continental, potentiellement, pourquoi pas, dès l'année prochaine. Tout ça, en fait, c'est aussi pour dire qu'il faut quand même revoir assez urgemment le système adaptateur et de formation français pour passer encore un cap, parce qu'on sait qu'on a les talents pour le faire, mais il faudrait tout simplement mettre les bouchées doubles encore et voir comment faire pour en sortir encore plus et qu'il fonctionne et qu'il marche encore plus chez les grands. Voilà, c'était de mon côté la petite parenthèse sur le réservoir des talents en France, parce que faut quand même le souligner, des fois, nous aussi, on sait faire de belles choses, donc cocorico. Le week-end prochain, bah, c'est les championnats de France. 224 km, 4400 mètres de dénivelé positif et surtout les pavés du Mont Cassel. Ça va être 15 tours spectaculaires. On sait que les championnats de France et même les championnats de manière générale, c'est toujours un énorme chantier. Mais cette année, ça l'est encore plus. Et tout simplement, j'ai hâte de voir ce qui va se passer parce qu'on sait aussi que certaines équipes auront plus de 15 coureurs. Faudra faire attention, comme toujours, aux échappées matinales, parce que sur les championnats, en général, ceux qui partent dès la première heure ont toujours un coup d'avance, et en général, ça peut aller au bout. On va dire, en vue du parcours, en vue des formes du moment, et on va dire, en prenant aussi en compte que ce soit du pavé, sur qui tu mises ?
Moi, j'ai bien envie de miser sur Julien. Un Julien qui monte en puissance, on y reviendra après. Mais franchement, c'est le genre d'arrivée qui pourrait lui convenir s'il a la soquette légère. Et après, si ça s'enterre un peu, voilà, je pourrais bien voir justement Arnaud Démare venir shipper peut-être le maillot de champion de France. Mais après, ouais, le champion de France, ça reste une course très ouverte, comme tu l'as dit. Les échappés ont bon vent ces derniers temps. Ça permet d'avoir un sacré coup d'avance et pourquoi pas aussi une surprise. Moi je pense savoir qui tu vas citer, mais je vais te le laisser.
Bah, en fait, moi honnêtement, vu la récente forme d'un Arnaud Démare, je mettrais quand même bien une piécette sur lui, mais parce que j'ai peur, par exemple, celui que je vais citer qui est Axel Zinglet, qui sera sélectionné sur le Tour de France. J'ai peur que ce soit un peu trop dur pour lui. 4400 mètres de D+, c'est quand même beaucoup.
C'est vrai.
Et moi, je pensais même, pourquoi pas, avoir du côté d'AG2R un Benoît Costefroy en grande forme, potentiellement sur ce championnat de France. Et ou même, pourquoi pas, un Pierre Gautrat qui aime les pavés. On l'a vu en forme du coup sur le Grand Prix de la Paix en République Tchèque. Ou même par exemple un Romain Grégoire. Comme tu l'as cité, Julien Alaphilippe, il sera aussi à surveiller. Mais on va dire, il y a des coureurs un peu partout, hein, assez intéressants. Pourquoi pas même un Hugo Hofstetter en grande forme. Sans oublier des Clément Russo, des Elie Gesbert. Non, ça va être une très belle course quoi. Et pourquoi pas même encore en y repensant un Benjamin Thomas qui passe bien les pavés, qui est en forme quand même, qui sort d'un bon 4 jours de Dunkerque. Non, franchement, il y a du beau monde, ça va être une belle course.
Moi, je suis d'accord avec toi, ça va être intéressant de la suivre et sans doute bien avant les 30 derniers kilomètres, il faudra être devant sa télé assez tôt. Du coup, j'en parlais tout à l'heure, on va faire un petit sujet rapide sur Julien Alaphilippe. Est-ce que ça serait pas le retour au premier plan du double champion du monde ? Avec sa victoire sur la seconde étape du Dauphiné, pour sa reprise en prévision du Tour, on peut peut-être s'attendre à un retour vraiment au premier plan. Est-ce qu'il a encore les jambes pour battre les meilleurs coureurs du monde sur les premières étapes du Tour, notamment du côté des Pays Basques ? Bah, et franchement, il y a un débat. Alors c'est peut-être sans doute pas non plus le plus fort, on va pas se mentir, mais par contre il a l'expérience pour se glisser au bon endroit et avoir un coup d'avance. Franchement, moi j'y crois, et imaginons qu'il ait un maillot de champion de France sur le dos, alors là purée, ça serait jouissif.
Et on va finir sur une note un peu plus drôle, c'était les belles images aussi du Baby Giro. Le contexte, 4ème étape du Tour d'Italie Espoir, arrive au Stelvio. 27 coureurs disqualifiés pour s'être accrochés à des voitures de DS, des motos de l'organisation et même de la police. Franchement, c'était très drôle. Malheureusement pour eux, ils ont été pris en flag par un des rares supporters présents sur les bords de la montée qui a eu, on va dire, la bonne idée aussi de filmer. C'est la beauté du monde amateur.
Franchement, c'était vraiment... Ouais, mais ils étaient désespérés, les mecs. Je sais pas, ils en étaient où au niveau des délais, s'ils étaient sûrs d'être hors délai. Mais. Enfin, c'est trop drôle de voir le flic qui regarde à droite, à gauche, et ils se disent, mais qui s'y foutent. Bah ouais.
Bon, ouais, c'est surtout que, on va dire, c'est quelque chose qui arrive quand même régulièrement dans le monde amateur et même professionnel, comme l'a encore dit Gilbert. Franchement, c'est juste que là ça a été filmé, du coup ils se sont fait choper. S'il n'y avait pas de vidéo, bah personne n'aurait rien eu, parce qu'au final, même la voiture ne roulait pas spécialement vite. C'était juste pour soulager les coureurs et pour éviter de se faire cramer par exemple sur Strava. Donc honnêtement, j'ai vu qu'il y avait un débat sur Twitter, est-ce que cela aura un impact sur leur avenir? Malheureusement non, parce que on va dire ça arrive presque sur toutes les courses, ce genre de choses. Malheureusement d'ailleurs, c'est sûr que par exemple il y a certains coureurs qui disaient aussi oh les tricheurs. Je suis pas persuadé que
ils sont tous blancs.
Ils n'ont pas fait, ouais c'est ça.
Ouais ouais. Non mais clairement. Et moi ce qui me saoule le plus sur les courses, c'est vraiment les bidons collés. Des fois c'est quand même archi flagrant que le DS met un bon coup d'accélérateur et il y a rien. Pourtant c'est à l'antenne sous nos yeux. Mais on dit rien. Mais enfin bref.
Oui, parce qu'il faudrait le légiférer en mode les coureurs n'ont pas le droit de tenir plus de 3 secondes le bidon, ou enfin c'est un peu compliqué de toute façon, parce que ça dépend de chaque coureur, de chaque voiture et
chaque cas devrait être étudié au cas par cas. Si vraiment ça, c'est en tête de course, bon, il y a peut-être quelque chose à dire, mais bon. Tout ça, c'est le CI qui gère.
Allez, c'est tout pour Dossard 13. Merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir écoutés pour ce petit épisode. On vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous et ciao ciao, à bientôt. Au revoir.
Ciao.